Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Les ados et la foi, rien que de prononcer ces mots, on a l'impression qu'ils contiennent en eux-mêmes une contradiction, tant on entend que les jeunes d'aujourd'hui seraient d'abord addicts à leur smartphone, fans de séries télévisées, et surtout éloignés de la foi chrétienne. Pourtant, à y regarder de plus près, ces mêmes jeunes auraient autant de questions existentielles que leurs aînés, autant de questions mais aussi de fulgurances, et ce même à propos de Dieu. Alors Dieu n'aurait-il pas déserté la vie de nos ados? C'est en tout cas la conviction profonde de mon invité de ce matin. Ce matin, donc, cette émission La foi des ados avec Agnès Charlemagne qui est. Bonjour d'abord.
Bonjour.
Voilà, donc vous avez plein de casquettes, mais on aura le temps de vous présenter. En tout cas, vous avez été adjointe en pastoral scolaire à Marseille pendant de nombreuses années et puis vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle T'es où aux éditions Salvator, on y reviendra. Et autour de ce plateau aussi Agnès de Pompignan, vous êtes adjointe interdiocésaine à la pastorale de l'enseignement catholique pour l'Ariège et la Haute-Garonne. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va vous présenter d'abord Agnès Charlemagne, parce que vous avez écrit un bouquin, c'est une espèce de pavé comme ça, de prime abord, on se dit « Ouh là là, j'ai pas envie de le lire », et puis en fait quand on se plonge dedans, c'est vrai que c'est passionnant. Alors qui est cette femme qui est en train de faire un peu la révolution dans la manière d'enseigner ou de parler de Dieu aux adolescents aujourd'hui? Donc, vous êtes mariée déjà?
Je suis mariée à un Hollandais.
Voilà, vous avez des enfants?
3 enfants.
Et vous avez donc vécu aux Pays-Bas pendant un certain nombre d'années, c'est important de le préciser.
C'est très important, j'ai vécu 15 ans aux Pays-Bas. D'abord c'est très important parce qu'aux Pays-Bas, la plupart des Hollandais sont non-croyants. Mais ils ont absolument le désir de finalement parler spiritualité, n'est pas du tout antinomique avec être non-croyant. Et puis dans leur famille, il y a très souvent... un grand-père protestant luthérien, une grand-mère protestant calviniste, une mère catholique, un père athée. Donc, on dit que quand 3 Hollandais se rencontrent, il y a un schisme. Ça veut dire que pour eux, c'est devenu vraiment intérieur. Et quand ils se nomment comme non-croyants, ils ont fait une démarche. Ils savent pourquoi. C'est plus nuancé. Tandis qu'ici, c'est un peu binaire.
C'est un peu, on en est ou on n'en est pas.
C'est ça, voilà.
Alors, vous avez aussi, pour vos enfants, utilisé la méthode Montessori. Alors, c'est important de le préciser. Est-ce que vous pouvez réexpliquer, en fait, quelle est la croyance, mais la méthodologie de fond de cette méthode?
Déjà, commencer par dire que j'en avais extrêmement peur. Donc, ils ont été dans l'école du coin de la rue. Montessori, je me suis dit, on verra. Et puis, j'avais l'impression qu'il n'y avait absolument pas de contenu. Il n'y avait pas de notes, il n'y avait pas de rapport avec les parents. De rapports écrits sur où est-ce qu'en est votre enfant. Les enfants choisissent leur rythme de travail, ils choisissent les matières qui les intéressent. Donc, quand je revenais en France, j'avais l'impression qu'ils ne savaient rien. Et ça, chaque fin d'année, je voulais les changer. Eux riaient en disant « on est heureux, pourquoi ?» Et mon mari souriait en disant « fais confiance, tu verras ». Et c'est quand on est arrivé en France et que les aînés avaient donc 12 ans, j'ai des jumeaux, que je me suis rendu compte tout à coup que mes frayeurs étaient non fondées et d'une, ils avaient encore un désir totalement intact d'aller chercher eux-mêmes dans les cours, les pages précédentes, les pages suivantes. Ils font des ponts entre les matières. Ils aiment travailler en équipe. Ils sont autonomes et responsables. C'est plus ou moins les deux mots clés de la méthode Montessori. Et puis, une chose qui quand même me touche et qui fait rire... mais c'est que ils m'ont dit en arrivant ici, en France, on apprend pour oublier. Parce qu'il y a cette histoire du contrôle et de la note, et puis finalement, on passe à autre chose. Et eux retiennent ce qu'ils apprennent et font des connexions. Et de faire un pont entre histoire et français en disant « mais ça, on l'a déjà fait il y a 15 jours », c'est quelque chose de délicat à faire pour les enfants qui sont... dans des systèmes de matière.
En tout cas, on a compris, le postulat de fond, c'est un peu de partir de l'enfant. En tout cas,
c'est vraiment de partir de l'enfant. L'enfant choisit son rythme et choisit ce qui l'intéresse, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une méthode assez stricte.
Alors, la méthode Montessori, qui est de plus en plus connue en France, qui se développe, il y a beaucoup d'écoles Montessori qui se montent en France. Par ailleurs, donc, vous êtes illustratrice à mi-temps, je le dis parce que vous êtes du coup en contact avec des grands adolescents dans une école de communication à Aix, en Provence.
Des jeunes adultes, oui, parce qu'ils ont 23, 25 ans, donc c'est plus des ados. Et c'est une école de communication visuelle et j'enseigne l'illustration.
Et surtout, donc, vous avez été adjointe en pastorale scolaire, donc à Marseille, on imagine après ces années aux Pays-Bas. Est-ce que vous pouvez, donc de 2005 à 2012, preuve que vous avez quand même un peu d'expérience, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça a commencé? Parce qu'on imagine que quand vous avez débarqué, quand vous avez pris cette responsabilité, vous n'avez pas tout de suite commencé avec cette méthode.
Si, j'ai tout de suite commencé. Parce que j'avais expérimenté cette méthode pendant 2 ans en CE2. Et là, j'avais rencontré une maîtresse qui me disait « Je n'ai jamais osé dire aux parents précédents que je n'étais pas croyante. » Mais j'ai non plus jamais vu une mère qui, comme toi, n'arrête pas de demander aux enfants « Qu'est-ce que vous en pensez ?» D'habitude, on dit « Jésus ressuscité » et puis on décline. Mais là, je n'arrête pas de dire « Mais et toi, tu le crois ? Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Et ça m'a été confirmé au mois de... Donc à Pâques de cette année avec cette maîtresse où on sortait d'une petite cérémonie de Pâques et les enfants avaient des fanions et chantaient que Jésus est ressuscité, alléluia. Et puis j'entends dans l'escalier quelqu'un qui dit, de toute façon, moi je crois pas, alors je m'en fous. Donc dans la classe, je leur ai demandé de continuer à chanter avec le fanion en l'air pour ceux qui croyaient et le fanion baissé pour ceux qui ne croyaient pas. Et la maîtresse et moi, on s'est regardés avec des grands yeux étonnés de voir que la moitié de la classe a tout de suite baissé son fanion. Puis il y en a un qui a dit, mais moi, est-ce que je peux mettre mon fanion au milieu parce que j'ai des doutes ? Immédiatement, il y a eu encore 10 fanions au milieu et il restait les 3 enfants catholiques pratiquants que je retrouvais à la messe le dimanche, dont je sais que les familles étaient tellement convaincues que le doute était même un concept inexistant. Et je me suis dit, et je leur ai demandé, comment est-ce possible ? Je vous connais depuis le mois de septembre et vous ne m'avez pas encore avouez que vous n'étiez pas croyant. Donc des enfants de 8-9 ans. Et ils ont peur en fait. C'est-à-dire ils sont au cours de catéchèse, on apprend ça, et ben vous voulez... Alors ils me disent souvent, mais je le dis parce que vous me l'avez demandé. Mais non, je ne l'ai pas demandé. Ce qui est important, c'est de savoir ce que tu penses toi. Et je me suis dit, on ne peut plus décréter les choses et se dire, de toute façon, il en restera quelque chose. C'était vrai quand c'était relayé par la famille, l'enseignement en général, le cadre d'un collège, c'est vrai que c'est très porteur, ça dépend des collèges, et puis même la rue, même la culture environnante, tandis que quand c'est un vocabulaire qu'ils ne connaissent pas, des notions qu'ils ne connaissent pas, l'évangile, ils l'ont jamais ouvert, et les quelques notions qu'ils ont de Dieu, c'est Dieu a fait mourir ma grand-mère, ben il faut faire autre chose.
Agnès de Pompignan, comment on y reviendra plus tard peut-être sur la nouveauté de cette méthode, mais sur ce que décrit Agnès Charlemagne. De fait, il n'y a pas besoin d'être très savant pour entrevoir qu'il y a un gros décalage entre la foi chrétienne telle qu'elle est connue par les aînés et la vie des adolescents d'aujourd'hui.
Oui, alors moi je voudrais juste revenir sur ce que vous dites là, Agnès, qui me semble très intéressant. C'est effectivement par rapport à... Il y a un livre très bien fait là que Jean-Paul Gaillard a écrit.
Alors, attendez, juste Jean-Paul Gaillard, qui est-ce ?
Je ne sais pas exactement qui c'est.
C'est pas une émission de spécialiste.
Non, donc, mais juste, il a écrit... Le titre, c'est, je crois, « Les ados, les jeunes en mutation ».
Ah oui.
Et en fait, tout ça pour dire que ça rejoint un petit peu vos propos. C'est vrai qu'aujourd'hui... Enfin, il y a 2 choses sur lesquelles je voudrais revenir. D'abord ça, c'est vrai que nous vivons dans une société où nos jeunes ne sont pas les jeunes que nous avons été.
Ouais.
Et donc ce fameux livre-là nous parle d'un monde finissant dans lequel moi je me reconnais et d'un monde naissant, je pense, dans lequel les jeunes d'aujourd'hui se reconnaissent,
ouais.
Suivant la génération à laquelle ils appartiennent, X, Y, Z, etc. Et en fait, pour rejoindre vos propos, ça me semble effectivement important que nous puissions, dans nos établissements catholiques, puisque on œuvre pour eux aussi, que nos APS puissent partir de ce que veulent les jeunes au départ, en tout cas, les doutes qui demeurent en eux, les questions qu'ils se posent. Et donc, la deuxième chose que je voulais dire, c'est dans votre méthode, en fait, moi j'y perçois la pédagogie du Christ. Hein, le Christ, il part bien de nous en tant que personne. Que veux-tu que je fasse pour toi ?
Ah,
et pas
formidable.
Qu'est-ce que, je vais faire tout pour toi. C'est que ta volonté soit faite, Seigneur, et que veux-tu que je fasse pour toi ? Et vous, je pense que là-dessus, votre méthode, elle est bien ancrée dans cette pédagogie du Christ, hein, qui part de la personne, pour ensuite l'amener
Voilà, comme quoi on a bien fait de vous inviter ce matin, hein, puisque vous avez même les satisfecit, oui.
Bah oui, parce que c'est exactement ça. Jésus ne s'est pas entouré de 12 apôtres qui étaient théologiens et qui en savaient long sur les choses de la foi. Pierre dit beaucoup et très souvent des grosses bêtises et il parle plus vite que son ombre et c'est un très bon exemple pour les adolescents. Et donc quand Jésus est avec eux, il leur dit exactement que disent-ils que je suis ? Et pour vous, qui suis-je ? Ça permet à Pierre, qui justement n'est pas toujours bien calé avec ce qu'on attend de lui, de dire « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Ce qui permet à Jésus de dire « Bienheureux es-tu, tu ne l'as pas trouvé tout seul. » Et du coup, Pierre va s'en rappeler de ce qu'il a dit, parce que c'est sorti par sa bouche. Si ça avait été dit par Jésus « Oh, écoutez-moi bien et essayez de l'apprendre un peu par cœur. Voilà qui je suis. » Mais Pierre aurait décliné cette offre.
Alors justement, peut-être vous ne pouvez pas nous expliquer dans le détail, mais au début de cet ouvrage, en fait, vous expliquez votre méthode. Il y a une espèce de rituel en fait dans chaque séance. Parce que vous ne débarquez pas comme ça en disant bon, aujourd'hui on va parler de la mort, posez-moi vos questions.
Non.
Comment vous y prenez pour introduire? Il y a comme une manière aussi de faire rentrer dans une forme d'intériorité. On se dit c'est pas facile quand même, ils doivent débouler comme ça dans la classe et puis d'arriver à hop, faire en sorte qu'ils parlent de choses profondes. Qu'est-ce que vous mettez en place comme petit rituel?
Alors c'est très important, je pense que chacun peut mettre son rituel à sa façon. Moi je propose le mien, mais il y a beaucoup de caractère et de charisme. Au début effectivement ils déboulaient dans la classe. Et j'ai compris qu'il fallait les calmer à la sortie de la classe. C'est-à-dire que soit ils entrent en silence si on était en récré.
Alors ça vous l'expliquez, mais vous avez réussi à l'obtenir comment? Parce que...
Eh bien juste, on rentre en silence, j'attends qu'ils soient en silence pour ouvrir la porte et rentrer.
D'accord.
Ou alors si je rentre dans leur classe, ils se lèvent pour me dire bonjour. Et ils se mettent en silence. Parce que je dis qu'on va... Ça n'est pas un cours, c'est très important. J'appelle ça une séance ou un atelier.
Vous êtes très douce, mais vous savez être ferme aussi. Alors
ah ben oui, mais...
il faut le préciser quand même à nos auditeurs. Non, non, je plaisante.
Donc, il faut qu'on puisse s'écouter. C'est-à-dire que ce qu'on va dire est fragile, intime, inconnu. Donc, ce silence nous met en condition. Donc ça n'est pas une histoire de discipline verticale, j'attends de vous le silence parce que ça donne du sens, ça a du sens. Et puis ensuite, la séance démarre par allumer la bougie. Et ça, je l'ai retenu de l'expérience en CE2, c'est la maîtresse qui avait cette bougie. Je me suis dit, ça c'est une riche idée. Donc on glane petit à petit, on devient petit à petit animateur en pastoral. C'est pas quelque chose qui s'apprend dans un bouquin.
Donc vous allumez la bougie, alors après il se passe quoi?
Alors, et c'est eux qui l'allument, ils ne savent pas l'allumer. Et du coup, ils savent pas faire craquer une allumette. Et ils soufflent l'allumette et ça éteint la bougie, il faut recommencer. Tout ça nous met dans cette espèce de... Oui, c'est fragile, c'est particulier. Et puis ensuite, je leur... fait passer les 3 ou 4 feuilles A4 sur lesquelles j'ai fait la saisie ordinateur des notes qu'ils ont prises à la séance précédente. Et donc chacun relit à tour de rôle et à haute voix les 3 lignes que quelqu'un dans la classe a écrit. Et ce qui est capital à ce moment-là, c'est que c'est anonyme. C'est-à-dire que moi, je ramasse à la fin de la séance les écrits de chacun. Je leur demande d'écrire leur nom et leur prénom. Donc je sais très bien que Emmanuel Pellac, Agnès de Pompignan, voilà, c'est vous et vous avez écrit ça. Quand je le prends sur saisi ordi, je pense à vous et je pense à une sorte de grande prière commune. Je me réjouis de lire tout ça. Je ne le fais pas saisir à l'ordi par quelqu'un d'autre, ce qui serait plus facile. Et puis... j'ai perdu le fil.
Non, c'est pas grave. De toute façon, pour plus de détails, j'ai envie de dire, on renverra vers le livre. En tout cas, on a compris qu'il y avait un rituel pour introduire ce dialogue. Est-ce que, avant qu'on fasse une première pause, vous pouvez nous parler de cette minute du silence et la manière dont elle est venue aussi?
C'est exactement, j'en étais là. C'est-à-dire, on discute en... chaque personne lit un pavé de texte et la lecture des écrits de la séance précédente est destinée à relancer le débat. En fait, tout est axé sur votre parole. Et comme ils lisent des pavés qu'ils reconnaissent immédiatement, c'est-à-dire « Ah oui, moi c'est ça, ah oui, non, moi c'est pas du tout la même chose, ah moi ça n'a rien à voir, je voulais dire mais », et en fait ça a incroyablement à voir, ils ont la parole grâce à ce que j'appelle la trampoline, ils se calent sur un truc. Puis, il y a la minute de silence. Donc je pourrais expliquer tout à l'heure comment elle nous a été donnée.
Allez-y, allez-y, dites bah, ça avant la pause
une,
et puis
une
après
fille,
on se baladera
en troisième,
dans
votre livre. Très très impertinente, vraiment indisciplinée, qui me faisait extrêmement peur et j'étais ravie quand elle était malade. C'est elle qui m'a intimé l'ordre et sur le ton de la moquerie de prier devant la classe en disant non mais voilà, de manière vous c'est facile, apparemment il vous parle à vous et alors et nous on essaye et puis il nous répond pas. Donc j'ai été c'est ce que j'appelle les interstices. Il y a des moments où je dis ah là il faut que qu'est-ce que je peux faire là. Donc c'est pas facile, hein, il faut rebondir et c'est là où j'ai compris, il faut pas être super héros, il faut juste être soi-même et fragile. Et j'ai dit moi je suis pas un chien de cirque, je peux pas devant tout le monde comme ça me mettre en prière. Ce que je peux vous proposer c'est qu'on le fasse tous ensemble. Donc je les ai mis en position bien assis sur la chaise, les yeux fermés, les mains sur les genoux. Et je leur ai dit soit vous priez, soit vous réfléchissez à ce qu'on vient de dire. Et en étonnement général, de ma part comme de la leur, ils l'ont fait pendant 3 minutes. Et quelqu'un a laissé tomber une trousse et il s'est fait casser par toute la classe. Tu nous as foutu le silence en l'air.
Vers le ciel, les bras en croix. Je pose toutes les questions qui cherchent des réponses. Si ma foi me pousse au-delà de moi, pourquoi y mettre une croix? On prie des ambitions, on prie dans l'émotion. On prie tous, parfois. Parfois, je me mets à pleurer. Parfois, je commence à prier. Parfois, je ne veux plus y croire. Parfois, c'est plus fort que moi. Tous ces mots, toutes ces joies, toutes ces larmes qui font ma foi, ma vie. Et pourtant, un jour ou l'autre, on part plus loin que loin. Savoir s'il y en a d'autres qui nous attendent sur le chemin. On prie pour les siens, on prie pour le bien. On prie tous, parfois. Parfois, je me mets à pleurer. Parfois, je commence à prier. Parfois, je ne veux plus y croire. Parfois, c'est plus fort que moi. Tous ces mots, toutes ces joies, toutes ces larmes qui font ma foi. Ma vie, ma vie, pour crier mes peines et mes joies. Parfois je prie les bras en croix. Parfois, parfois, je me mets à pleurer. Parfois, je commence à prier. Parfois, je ne veux plus y croire. Parfois, c'est plus fort que moi. Tous ces mots, toutes ces joies, toutes ces larmes qui font ma foi. Parfois, je me mets à pleurer. Parfois, je commence à prier. Parfois, je ne veux plus y croire. Parfois, c'est plus fort que moi. Tous ces mots, toutes ces joies, toutes ces larmes qui font ma foi, ma vie.
Présence. Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, une émission La foi des ados avec donc Agnès Charlemagne, auteur d'un ouvrage intitulé T'es où ? Point d'interrogation, des ados parlent de Dieu aux éditions Salvator. Et nous sommes aussi avec Agnès de Pompignan, qui est adjointe interdiocésaine à la pastorale de l'enseignement catholique pour l'Ariège et la Haute-Garonne. Alors on va plonger maintenant ensemble, Agnès Charlemagne et puis vous, Agnès de Pompignan, donc dans votre livre. On va se balader comme si on vivait, on essayait de vivre un peu un de ces ateliers, puisque vous appelez ça des ateliers. Le premier exemple que je prendrais, c'est sur la question du mal. Vous relevez un certain nombre de phrases. Je ne sais pas exactement comment vous introduisez, par exemple, une séance comme ça.
Mais moi, je n'introduis pas.
Écrivez vos questions sur le mal ou...
Non. La toute première fois, j'introduis en demandant en qui crois-tu et quelles sont les questions que tu voudrais poser à Dieu si on le rencontrait. Et si tu ne crois pas en Dieu, pourquoi ? Et donc, la question qui vient en priorité, c'est celle du mal. Le mal et la mort, on pourrait en parler 6 mois dans chaque classe, tellement c'est ce qu'il est. Leur mot, par exemple, c'est ça les dégoûte de Dieu, parce que ils ont prié pour la mort de leur grand-mère, et la grand-mère est quand même morte. Et là, je peux vous en lire un, si vous voulez, qui est vraiment... qui nous prend... qui nous laisse sans voix. « Dieu reste silencieux pour les siècles et les siècles. Il est passif face à la douleur. C'est lui qui a fait mourir délibérément nos proches. C'est pour nous punir qu'il envoie le malheur et la maladie. C'est un traître. » Jade en 4e. Donc, ils écrivent ça, et moi je ne dis pas « nous allons parler du mal ». Je dis « j'ai pris la saisie ordinateur des mots que j'ai récupérés la dernière séance ou le dernier atelier ». Je vous les passe et chacun lit un pavé à voix haute et à tour de rôle pour qu'on en rediscute. Donc, forcément, la balle rebondit d'un élève à l'autre sur la question du mal, ce qui fait que le débat rebondit, moi aussi, moi pas du tout, moi c'est le contraire et tout ça. Et puis ensuite, il y a la minute de silence. Ensuite, ils écrivent. Et ils écrivent sur ce qu'on vient de discuter, ce qui me donne la nourriture pour le matériau suivant. Hier, j'étais avec des scouts pour parler de Théou, et il y avait un ingénieur en aéronautique qui a dit « Cette méthode, c'est marrant parce que les ados sont le moteur et le carburant. » Ça m'a fait rire, parce que comme il est ingénieur, ça doit être son...
En tout cas, donc c'est vrai que cette phrase est magnifique, et puis il n'y a pas besoin d'avoir, d'avoir 20 ans passés pour être sensible au mystère du mal. Alors c'est vrai qu'on a peut-être du mal à savoir dans quel ordre commencer. Moi je dirais, la première chose qui est frappante dans ces phrases, c'est qu'ils ont tout à fait conscience du bien et du mal que l'on peut faire. Alors ils l'expriment avec leurs mots. Parfois on peut regarder ça un petit peu de haut, et en fait souvent c'est des expressions qui sont crues et qui sont très profondes. Par exemple celle-là, le bien est bien plus facile à faire que le mal, le bien c'est trop dur, ça c'est un truc très facile à comprendre pour le mal, et il est devenu très champion du déguisement. Voilà, le mal est facile et plus séduisant car il cherche justement à l'être pour qu'on se laisse aller dans la direction la plus facile. Ils ont une notion du bien et du mal, et ils voient bien en fait ce qui se passe dans leur cœur, et vous partez en fait de là tout simplement.
Ben, il le voit ou il le voit pas, parce que par exemple il y avait, je me souviens très bien de quelqu'un qui avait dit mais de toute façon moi j'ai pas de conscience, jusqu'à aujourd'hui je savais pas que j'avais une conscience, et en plus on m'a jamais pardonné, donc je sais pas de quoi vous parlez. La plupart du temps eux ils disent moi ça m'intéresse pas, moi j'ai rien compris, moi tout ça je m'en fous. Et puis c'est parce que on parle de leurs phrases qu'ils se connectent, pour parler leur vocabulaire, et qu'ils se disent « mais ça parle de moi, ça !» Donc c'est pas comme les manuels de catéchèse. Ils sont concernés. Comme ils sont concernés, on en parle. Et c'est à ce moment-là que je choisis ce que j'appelle les interstices, et que je dis « ah, ça, Jésus, voilà. » Et comme la Bible est à côté de la bougie, on l'ouvre et on en parle.
Alors si on continue sur le mal, j'ai cette phrase « on croit le mal qu'on fait invisible, mais le mal, ça laisse toujours une marque physique ou intérieure de vengeance. » Et ça, c'est Tommy en 6e. Ouais. Donc sur le mal, en fait, j'imagine qu'il n'y a pas un processus classique. En tout cas, ils prennent conscience qu'ils sont capables du mal comme du bien. Ils voient en fait aussi peut-être la profondeur du mal qui peut s'imprimer en eux et chez les autres. Ouais. Est-ce qu'il y a des étapes un peu naturelles?
C'est ça qui est beau, c'est qu'il n'y a pas d'étapes, et parce que chaque classe a ses étapes, chaque enfant a ses étapes. Donc je peux vous parler d'expériences que j'ai eues dans telle classe, telle année, et où on a compris telle chose sur le mal, et où quand je les rencontre maintenant dans la rue à Marseille, ils me disent ça, je ne l'ai pas oublié. Parce que c'est ce qui arrive avec l'évangile et avec Jésus, ce sont des rencontres. C'est pas un savoir, donc je peux pas vous dire, vous allez avoir le mal, il va falloir faire d'abord ceci, cela. Jésus est dans la relation, et il est avec la Samaritaine, et il est avec Zachée, et il est avec le centurion, et avec le centurion qui n'est ni croyant, ni pratiquant, ni juif, et qui est en plus romain, et il dit, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Donc la seule chose que je fais, d'ailleurs je leur dis, je suis le chef d'orchestre de la parole. Et je dis, qui veut parler, qui veut répondre à cette question? Si la question me dérange et que c'est un peu pointu et que je me sens un peu démunie, je vais certainement pas répondre de plein fouet comme ça. Je dis, qui veut répondre à cette question? Ou alors je demande à cet enfant, pourquoi est-ce que tu poses cette question?
Et ça doit pas être évident parfois, parce que de laisser la main comme ça sur des questions importantes, vous n'avez pas peur qu'il y en ait un qui réponde à quelque chose qui est complètement à côté de la plaque?
C'est jamais à côté de la plaque. Et j'ai pas peur parce que l'Esprit Saint est avec moi et c'est lui qui m'a mis dans cette situation délicate et fragile. Donc c'est pas le moment d'avoir peur. Je dis que j'arrive les mains vides et que je repars les mains pleines.
Alors si on continue, non pas cet exercice, mais j'ai relevé une autre phrase, « Dieu ne nous tient pas en laisse comme la chèvre de Monsieur Seguin. En fait, Dieu est dans chacun, même les mauvais, mais il reste à savoir s'il est éclairé ou non. » Alors imaginons comme ça, donc il y a une classe où ils ont pris conscience du mal dont ils étaient capables, en fait, peut-être de la manière dont ça peut s'imprimer en eux, et puis il y a cette réflexion qui est faite. Vous dites que parfois vous intervenez pour donner une réflexion ou un éclairage. Là, je sais pas, vous rebondiriez comment
sur... Par exemple, allumé ou éteint, le cœur, pour eux, il y en a un qui avait dit, le cœur c'est un interrupteur, soit il est allumé, soit il est éteint. Donc on peut parler de ça pendant un petit moment. Et on avait compris que quand on fait mal à quelqu'un, en fait on se fait mal. Et ça, on l'avait compris grâce à un petit dessin cette année-là, où il y avait deux petits bonshommes, il y en avait un qui donnait un coup de poing à l'autre, il y avait une grosse bulle par-dessus, énorme, avec marqué « aïe », et la bulle venait des deux bouches. Donc si on est tous reliés par des fils invisibles, le mal que je te fais me retombe sur le nez. Alors dans ces cas-là, il se passe quelque chose, ce sont des déclics. Eux, ils parlent souvent de déclics aujourd'hui. Par exemple, Hugo en sixième répond « il y a tellement de gens qui sont malheureux que j'ai l'impression que Dieu n'y arrive pas à le faire tout seul, et qu'il y a des intermédiaires comme les étudiants Dieu ». Entre guillemets, étudiant Dieu. C'est au moment où ils sentent que le mal n'est pas la volonté de Dieu, une espèce de pluie noire qui nous tombe dessus sans qu'on puisse réagir. Mais il a besoin de nous pour intervenir. Et la réponse et son action sont nos paroles, nos gestes, nos regards et nos pensées. À ce moment-là, ça change. Par exemple, je trouve qu'il y a beaucoup plus de malheur dans le monde que de bonheur. Et c'est dommage, dit Tom en cinquième. Mais mon œil intérieur me dit que cet après-midi, je vais manger des crêpes chez ma mamie. C'est vraiment...
L'œil intérieur, on verra aussi des très belles phrases sur le silence aussi, comme ça, où ils parlent ils parlent de leur cellule intérieure, en fait, quelque part. Ouais. Hein, c'est presque de la mystique. Agnès de Pompignan, est-ce que vous avez une réaction sur ce qui vient d'être dit?
Moi, je suis bluffée. Je trouve ça très beau. Voilà, de la place où je suis, effectivement, dans votre bouquin et dans votre méthode, Agnès, pour nous, APS, en tout cas, enfin, les animateurs en pastorale scolaire qui sommes, effectivement, au cœur de, voilà, de ces ateliers, de ces séances de pastorale, de caté, on peut l'appeler comme on veut, ce qui me paraît guidant dans cette méthode-là, c'est qu'effectivement, partant de ce que l'élève a envie de dire sur un thème, voilà, qui est lancé un peu à la volée, c'est de lui offrir cet espace de parole, en fait. Voilà, et je pense que c'est probablement vers ça, hein, que nous aussi, il faut qu'on avance dans nos établissements catholiques, sachant que, comme vous l'avez dit, votre méthode aussi, elle s'adresse pas que à des cathos. Et nous, dans nos écoles catholiques, nous n'accueillons pas que des catholiques. Voilà, c'est vraiment c'est une école ouverte à tous, dans le respect de la liberté de conscience, des croyances, évidemment. Et donc, voilà, ça veut dire que à travers cette méthode-là, nous, nos APS, elles ont de quoi, à mon avis, enfin, ils et elles, ont de quoi, voilà, avoir matière à lancer, pourquoi pas dans certains établissements, une nouvelle forme de pastorale. Voilà.
Alors on continue, si ça vous embête pas, parce que après le mal vient souvent la question du pardon. Alors vous dites, en introduction de ce chapitre, vous dites pour les ados, pardonner est une faiblesse. Et Et puis un peu plus tard, il y a cette phrase, imaginez que ça arrive à vos enfants, enfin citant probablement quelque chose de difficile, imaginez que ça arrive à vos enfants, qu'on fasse ça à votre fille, vous n'allez quand même pas dire que vous allez pardonner ça, même un catholique. Enfin, en tout cas, il voit ça comme souvent comme une faiblesse.
Ou le monde des bisounours, donc de toute façon, c'est péjoratif. Et oui, mais quand on se rend compte que le mal que je t'ai fait est un parasite pour mon cœur, et que j'en souffre moi-même, et c'est ça qui finit par les faire se remettre en question eux-mêmes. Ils se rendent bien compte que la vengeance en rajoute une couche, que ça n'est pas la solution. Et comme ils ont plein d'exemples de vengeance chez eux dans leur famille, et de frères qui se parlent plus, et de grand-mères, de schismes familiaux, ils sont concernés, là encore, par le problème.
Alors vous expliquez par exemple que pour un de ces ateliers, probablement après avoir pris un certain nombre de réactions ou de paroles, enfin être parti de ça, vous prenez la parabole du fils prodigue.
Oui,
et puis après vous voyez l'écho que ça trouve dans leur cœur. Et est-ce que vous pouvez vous rappeler de ça? Est-ce que vous pouvez nous en partager un peu?
Le fils prodigue, je crois que Maurice Zendel disait, s'il fallait laisser une seule parabole dans l'évangile, c'est celle-là. Et effectivement, je leur demande toujours, dans lequel des trois personnages vous vous sentez le plus à l'aise? Est-ce que c'est le père, le fils aîné ou le jeune fils? Évidemment, ils prennent tous la défense du fils aîné en trouvant que c'est trop injuste parce que lui, il a tout fait bien et il est même pas, il n'y a pas de fête.
Je vais citer, si j'avais été le deuxième fils, donc celui qui est parti et qui revient, j'aurais gardé l'héritage. Donc bon, la parabole du fils prodigue, c'est donc ce fils à qui son père donne son héritage, qui, on va dire, le dilapide dans une vie compliqué, voilà, pour faire court. D'aucuns diraient une vie de débauche. En tout cas, il revient vers son père et puis son père l'accueille et l'aîné, on va dire, fait la gueule, pour être très court, très, très trivial.
Une crise de jalousie.
Et donc, ce jeune Brian, 6e, dit, si j'avais été le deuxième fils, donc celui qui est parti, j'aurais gardé l'héritage pour avoir à manger. Le père, j'aurais fait la fête comme il l'a fait, mais je lui aurais dit une leçon de morale. Le premier fils, j'aurais été content, mais de là faire une grande fête, je le ferais pas. Voilà. Oui. Et puis ils trouvent un écho aussi dans leur vie personnelle, ils disent les histoires de pardon données, pas données, de rancœur familiale.
Je leur dis que la Bible c'est aussi des histoires de famille. Et comme eux ils me disent, mais vous l'avez lu vous ce livre madame? Mais vous avez vu le français que ça parle? Mais vous... Donc on explique que tout ça sont des paraboles, que chacun la reçoit à sa façon, mais que ça n'a de sens que si c'est une parole vivante et qu'elle parle en 2016 aussi. Ça n'est pas Jésus historique, sinon ça n'a aucun intérêt. Et alors, dans les petits papiers qui recirculaient, à un moment donné, je lis, ou les enfants lisent, mais moi je l'avais du coup tapé, et je me demandais bien ce que ça voulait dire. Il y a toujours deux cœurs dans le Père. Et quand le papier passe, je les fais réagir là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous croyez que celui qui a écrit « Il y a toujours deux cœurs dans le Père » pense? Et donc il y en a un qui lève la main en disant « Ah ben ça c'est facile, c'est juste un cœur pour le fils aîné et un cœur pour le jeune fils ». Et là, il y a une petite qui lève la main, toute timide, et qui dit « c'est pas ce que j'ai voulu dire ». Et comme la lecture est anonyme, ça leur permet de dire énormément de choses dont ils sont eux-mêmes extrêmement étonnés que ça fait 10 minutes qu'on parle de leur phrase. Donc ce qu'elle voulait dire, c'était « il y a un cœur pour dire « tu m'as fait très mal » et un cœur pour dire « mais je te pardonne ».
Et c'est ce qu'elle formule à ce moment-là?
Non, c'était... Oui, c'est ça. Donc elle avait écrit « Il y a toujours deux cœurs dans le père ».
Donc elle a explicité devant tout le
c'est
monde.
C'est ça. Elle a osé le dire alors qu'elle prenait absolument jamais la parole. Donc là, je leur dis, vous savez, il y a des grands théologiens qui écrivent des bouquins entiers sur
ça.
Mais
c'est quasiment du Zendel, hein, c'est exactement ça.
Et puis du coup, avec cette... Effectivement, ils vont réécrire sur ce qu'on vient de dire. Du coup, je vais avoir encore 30 variations différentes de cette découverte que je peux ensuite partager dans une autre classe. Quelquefois, les sixièmes me disent « Non, on va pas lire des trucs écrits par les troisièmes » ou inversement « Ah, mais c'est trop bébé, on va pas lire les écrits des sixièmes quand on est en troisième. » Et à chaque fois, ils se disent « Mais c'est les sixièmes qui ont écrit ça ?» Parce que la foi n'attend pas l'âge, ça n'a aucune... Et alors, en quatrième, un garçon dit, après qu'on ait reparlé de l'enfant pourri, « Non, mais je crois qu'on se trompe là, depuis le début. C'est pas ça. » C'est pas que le père s'est fait avoir par le jeune fils, parce que le père il a la sagesse. C'est pas non plus que Dieu pardonne tout, parce que ce serait trop facile et d'abord on n'en sait rien, on l'a jamais vu. Donc moi j'attendais avec impatience, c'est quoi alors? Eh bien je crois que ça veut dire que nous, On a trop peur de se faire pardonner.
Et c'est vraiment bouleversant ce qu'ils peuvent partager. J'avancerai en parlant du silence. Donc vous avez expliqué comment le silence en fait est venu au milieu de ces ateliers. Et je disais en introduction, alors vous l'avez cité là, avec cette petite fille qui parle des deux cœurs, vraiment ces formes de fulgurance comme ça. On se dit que vraiment l'esprit souffle où il veut. Sur le silence, il y a donc alors c'est un certain Cyril en quatrième qui dit « Quand on fait la minute de silence que vous avez décrit tout à l'heure, c'est un peu un deuxième nous qui l'a fait. »
Ouais.
Voilà. Je me disais, en effet, c'est quasiment de la mystique. C'est-à-dire, il découvre, en fait, à la faveur de ces dialogues existentiels, en fait, qu'il y a quelqu'un à l'intérieur d'eux-mêmes, en fait.
Ouais.
Il y a comme une cellule intérieure. C'est extraordinaire. Hein. Alors, c'est fulgurant. J'imagine, si vous n'avez pas ça quand même tous les quatre matins, peut-être, est-ce que vous pouvez détendre tout à chacun? Parce qu'on se dit, mon Dieu, on a peur de se lancer, probablement, après.
Alors, par exemple, il y a parfois des ateliers où je me dis, oh là là, c'était quand même un peu mouvementé, tout ça. Et puis c'est fatigant parce qu'il faut leur donner la parole, et il faut être assertif, il faut être tourner la tête dans tous les sens, qui lève la main. Et puis quand je relis les papiers, c'est là où les papiers sont très importants. La fulgurance est très très souvent dans les papiers et elle rebondit à la séance suivante à l'oral. Mais il peut y avoir une séance qui a été agitée et avec trois papiers où j'en ai pour l'année entière à me réjouir. Et je pense que c'est cette façon de parler, se taire, écrire, et on recommence, qui fait qu'il y a un rythme, et donc c'est cadré, c'est pas n'importe quoi, c'est pas on parle et puis tout à coup c'est l'heure de la récré, on s'en va, non, je leur dis. Et avant qu'ils se mettent en silence, je récapitule les trois sujets qu'on a évoqués, pour qu'ils aient un petit peu la nourriture de se dire « ok, je vais réfléchir à ça ».
Et donc en fait le cadre posé, je trouve, est très rassurant.
Enfin, Agnès de Pompignan.
Oui, excusez-moi. D'abord, donc, pour les élèves qui sont présents et à la fois pour vous aussi, toute personne qui souhaiterait appliquer votre méthode en cours.
Parce qu'on relit ce qui a déjà été écrit, donc on part de quelque chose de très concret. Ils discutent, ils ont la parole, ils sont heureux de le faire, du coup ils y vont. S'ils posent des questions un peu pointues, je n'ai pas forcément la réponse. Et je l'avoue et je le dis.
Ça, on y reviendra peut-être plus tard, justement.
Très important. Ensuite, il y a cette minute de silence. Auparavant, on a pu lire un chapitre de l'Évangile. Du coup, on l'a lu, mais ils ont toutes les oreilles ouvertes. C'est pas « Ah, on va lire ça. Ah non, pas l'Évangile. » Et puis, après le silence, ils écrivent. Et avant qu'on se quitte, ça fait partie encore du rituel, on se dit au revoir, parce qu'on a dit des choses importantes.
Je citerai peut-être pour finir, avant qu'on fasse une deuxième pause musicale, je vous laisse réagir si vous voulez, enfin l'une et l'autre, une autre phrase comme ça que j'ai trouvé vraiment magnifique, c'est Sandro en quatrième sur le silence qui dit « Le silence, quand on est seul, ça fait peur, mais quand on dort, ça fait du bien, j'ai besoin de plusieurs silences. »
Voilà, ça c'est leur découverte.
C'est tout simple, hein, mais c'est vrai que c'est presque de la poésie en fait, hein, tout d'un coup de dire ça.
Pour eux, ils disent « Le silence, moi ça me stresse, le silence, ça me donne envie de faire du bruit, le silence, dès que j'arrive chez moi, j'ai peur et je mets tout à fond. » Et il termine en disant « Le silence, ça doit être pour les vieux, parce que ma mère, elle adore ça. » Et quand il découvre que le silence est habité, et qu'il y a, au-delà de la trouille du silence, quelque chose qui les rend...
qui les nourrit, finalement.
Voilà. C'est bouleversant.
Pour nous envoler, le vent s'est levé.
cheveux m'envolaient. Le vent dans ma vie s'est levé, m'a donné la force d'avancer. Maintenant ma voile est levée, levée.
La foi et les ados, donc ce matin avec Agnès Charlemagne, si vous nous prenez en cours de route, je vous rappelle, auteur donc de Théou aux éditions Salvator, des ados parlent de Dieu, et Agnès de Pompignan qui est adjointe interdiocésaine à la pastorale de l'enseignement catholique pour l'Ariège et la Haute-Garonne, avec donc ce livre roboratif et pourtant vraiment étonnant, donc sur la foi des ados, comme vous avez pu nous l'expliquer depuis le début de cette émission, c'est-à-dire une foi, on va dire, pour eux, ils n'ont pas la foi, mais en fait, en cheminant ou en cherchant, ils se rendent compte qu'il y a déjà dans leur cœur beaucoup de choses. Agnès de Pompignan, dans cette dernière partie d'émission, je voulais avec vous peut-être voir quelle était un peu la... Comment est formulé dans l'enseignement catholique le but de la pastorale, voilà, mm-hmm. Quand on... Qu'est-ce qui est dit? Quel est le but pour l'enseignement catholique? Le but, c'est de parler de Jésus, c'est de partir des questions des jeunes, justement. Qu'est-ce qui est dit aujourd'hui par les grandes directives?
Alors d'abord, dans ce que vous dites, je reviens juste sur le mot pastoral. Il n'y a pas à proprement parler de pastoral dans un établissement scolaire. Je ferai plus la distinction entre deux choses. Il y a une dimension pastorale, effectivement, qui est transversale et qui est, se retrouve aussi bien dans la façon d'accueillir un élève, une famille, lors d'un entretien d'inscription, par exemple, lors de, voilà, d'un conseil de classe, la façon dont le regard va être porté sur l'enfant, par chacun des acteurs, hein, que ce soit des enseignants, croyants ou pas croyants. Cela dit, donc voilà, c'est d'abord la dimension pastorale qui pour moi se retrouve dans tout acte, dans toute façon de regarder, de vivre en fait. C'est un peu la température pour moi, le baromètre d'un établissement catholique d'enseignement. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle plutôt l'animation pastorale. Voilà, dans l'animation pastorale, il y a effectivement ces ateliers dont Agnès parle, qui peuvent être, suivant les établissements scolaires, soit encore ça peut s'appeler des cours d'instruction religieuse, ou bien du témoignage de personnes ou de témoins chrétiens qui viennent.
Et quel est le but
de la catéchèse?
Comment il formule ça? Là, le but c'est quoi? C'est de qu'est-ce que disent les directives, on va dire, nationales? Le but c'est quoi? C'est de susciter un questionnement existentiel comme ça, ou c'est une transmission de la foi?
Je pense qu'il faut aussi revenir à ce qu'on appelle le projet de l'enseignement catholique. Voilà, le projet de l'enseignement catholique, c'est un projet d'une école ouverte à tous. Voilà, ouverte à tous, qui est non pas ancrée dans des valeurs, voilà, parce qu'on y vit peut-être, on y vit des valeurs, mais bon, il n'y a pas de valeurs dans l'évangile, hein, il n'y a que des vertus. Mais en tout cas, c'est vraiment un projet qui est ancré dans le Christ, voilà, dans lequel l'annonce explicite de l'évangile, elle fait partie, entre guillemets, du boulot du chef d'établissement. Le chef d'établissement, c'est le garant, hein, du caractère catholique de l'établissement. Il reçoit une mission par une lettre de mission, il reçoit vraiment mission de l'évêque pour que cette dimension pastorale qui fait partie pour lui de son boulot, c'est pas une charge en plus, c'est une charge dans laquelle voilà, qui doit transpirer dans dans chacune de ses autres charges, qu'elles soient administratives, matérielles, pédagogiques, éducatives.
Donc mais une fois qu'on a dit ça, ça dit pas la manière dont on s'y prend.
J'ai envie de dire, c'est un peu c'est pour ça que je me sens très proche d'Agnès, en tout cas de cette pédagogie là, parce que j'ai envie de dire, ça dépend aussi du public que l'on accueille. Voilà, un établissement de centre-ville ici à Toulouse n'aura pas une pastorale qui va être menée probablement de la même façon qu'une école rurale ou qu'une école voilà de banlieue, où voilà, ça dépend de la mixité, ça dépend du tissu social, culturel, etc. En tout cas,
mais
moi,
le but c'est de faire de la philo entre guillemets, ou c'est de ou
c'est ah bah c'est quand même d'annoncer la bonne nouvelle, c'est annoncer la bonne nouvelle à tous, voilà. Et bon, après, c'est plus ou moins évident, on va dire, suivant... parce que le chef d'établissement, il peut pas faire tout seul. Donc, effectivement, dans la mesure du possible, lorsqu'il a les moyens aussi financiers, eh ben, il peut s'adjoindre d'un ou d'une adjointe à la pastorale. Donc, c'est ce qu'a fait Agnès Charlemagne pendant 12 ans dans un établissement marseillais. 7 ans, c'était 2005-2012. Ouais. Mais après, dans une école qui a pas forcément les moyens financiers de pouvoir, entre guillemets, salarier cette personne-là, du coup, ben, elle s'adjoint de parents qui veulent bien assurer cette mission-là. Mais après, voilà, dans l'animation pastorale, bien évidemment, ça va d'une proposition... voilà, il y a des messes quand même qui sont proposées dans tout établissement catholique. Il y a des séances ou des ateliers de pastorale. Il y a de la catéchèse, il y a de la proposition de la préparation au sacrement, etc. Voilà, en lien toujours avec le prêtre de la paroisse locale.
Donc, si on reprend donc l'ouvrage de Daniel Charlebagne, donc Théou, des ados parlent de Dieu, est-ce que vous diriez que cette méthode, elle est déjà d'une certaine manière utilisée, mais de manière un peu empirique et pas forcément réfléchie par les adjoints en pastoral, ou est-ce que ça constitue un peu une révolution dans la manière d'aborder la foi chrétienne?
Alors, il se trouve que Agnès Charlemagne, là, nous sommes à Radio Présence ce matin, mais cet après-midi, va venir justement nous partager cette expérience-là et nous parler de cette méthode Théou à tout le réseau d'animateurs en pastoral scolaire. Voilà, donc on est, ils sont une bonne trentaine à venir. Donc voilà, et puis je l'ai ouvert à tous, donc vous aurez aussi des bénévoles, des parents ou pas, hein, d'ailleurs, des grands-parents bénévoles. Donc
ma question c'était, est-ce que c'est une révolution ou pas? Est-ce que c'est une nouvelle manière de faire, ou est-ce que ça vient en fait mettre des mots sur ce qui était déjà pratiqué?
Alors, moi, ça il faudra la poser, je pense, à ceux qui sont effectivement sur le terrain, les animateurs en pastoral.
Vous les connaissez, j'imagine.
Voilà, je les connais. Alors après, moi, je suis enseignante, donc dans cette façon de faire, dans cette méthode-là, je retrouve pour moi une pédagogie qui parle tout à fait à nos jeunes d'aujourd'hui. Voilà, moi en maths, je vais peut-être pas aborder les mêmes sujets, mais en tout cas dans la façon de faire, je sais que j'essaye de partir d'abord de nos élèves,
hein, de ce qu'ils
me disent, et de les amener. Je pense que ce qu'il faut, c'est effectivement mettre en confiance. Enfin, moi, ce qui me paraît important, c'est dans n'importe quelle situation face à une classe, c'est d'abord de mettre en confiance et de donner envie, de susciter. Et ensuite, effectivement, nous, on a notre fil rouge. Et je veux dire, c'est pas la peine de dérouler mon fil rouge si en face de moi, j'ai pas des élèves qui sont disponibles, quoi, pour accueillir ce que j'ai envie de leur dire.
Agnès Charlemagne, vous l'avez dit plusieurs fois au cours de cette émission, qu'en fait ça implique aussi une autre posture de la part de celui qui justement est normalement un enseignant, c'est-à-dire d'accepter quoi, d'être vrai, de pas avoir réponse à tout.
Ouais. C'est-à-dire que beaucoup de gens me disent, oui, mais il faut quand même être enraciné dans le Christ, il faut quand même avoir subi une vraie conversion, il faut quand même avoir des réponses théologiques, comment vous faites? Et je dis non, Jésus n'a pas choisi des gens calés, il a pris les gens là où ils étaient, et c'est après qu'ils aient reçu cet élan de « suis-moi » qu'ils se sont transformés à l'intérieur.
Mais là, on pourrait dire que vous parlez des élèves, pas de ceux qui sont censés...
Non, les animateurs. Je pense qu'on peut vraiment venir avec ce qu'on est, c'est-à-dire pas forcément un super-héros ni costaud, et le devenir petit à petit en s'adaptant avec son cœur et non pas avec son cerveau ni son savoir. C'est une question de relation. C'est une question de je suis au milieu de vous et je n'en sais pas forcément plus que vous. Et que les ados découvrent que cette, cette matière qui est celle du Christ, qui est notre vie et le bonheur dans notre vie, et cette bonne nouvelle qu'il se passe quelque chose qui nous emmène au-delà de la mort et au-delà du mal, eh ben c'est en dehors du savoir, c'est en dehors des livres. On peut, la parole vivante, oui, le livre qui nous donne des paraboles, qui nous parlent des histoires de famille de 2016, oui, mais c'est pas la peine d'avoir lu les théologiens. Par contre, on peut se affiner sa propre recherche en disant, cette question est passionnante. Quand je suis pas à l'aise avec une question, je dis, d'abord, pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Ça met tout de suite sur l'angle de vue que recherche l'enfant. Je lui dis très souvent que la réponse est déjà dans sa question. Je demande aux autres enfants, qui veut répondre à cette question? Il y a 3 ou 4 mains qui se lèvent et ça nous met exactement en face, beaucoup mieux que ce que j'aurais fait moi. Et puis moi, je peux reprendre tout ça, comme le chef d'orchestre de la parole que je suis, dire, en tout cas, vous me bluffez parce que vous avez vachement bien répondu à cette question et moi, je la trouve difficile, délicate, mais je vais me renseigner et je reviendrai dessus.
Et vous dites, alors pour finir, ce sera ma dernière question, que vous avez aussi fait beaucoup de chemin, en fait, grâce à tous ces
jeunes. C'est merveilleux. Et je leur dis que j'arrive beaucoup moins à prier pendant les vacances d'été parce que j'ai pas leurs mots, leurs réactions, leurs questions, et que j'ai ma seule foi, et que bon, petit à petit, elle s'assèche. Tandis que ils m'ont posé des questions tellement, justement, les questions qui fâchent, des questions pointues, que ben, je me suis mis en marche, quoi. Et cette histoire de l'élan du Christ, saint Paul qui dit « j'ai été saisi par le Christ et je cours derrière lui », mais c'est ça, c'est-à-dire ils nous saisissent et ça ne fait pas mal, ça fait du bien. Cette fragilité qu'on ose leur montrer, elle nous libère. C'est pas du tout de se dire « ah non, mais moi j'ai pas envie de me mettre à nu », c'est le contraire, c'est pour nous rendre heureux.
Eh ben, merci beaucoup Agnès Charlemagne d'être venue, merci Agnès de Pompignan. Je rappelle le titre de votre ouvrage, T'es où, aux éditions Salvatore, des ados parlent de Dieu. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
Cette émission
merci.
Était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.